Soirée de l'UNIS et FNAIM du Grand Paris, en partenariat avec TK Elevator et Drieux Combaluzier sur Radio Imo.
Bienvenue sur Radio Imo. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans ce merveilleux lieu, le pavillon Dauphine, pour cette soirée UNIS en partenariat avec la FNAIM et Benjamin Darmouini. Bonjour.
Bonsoir Bérénice.
Président délégué de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Alors, pour ce plateau, vous avez décidé d'inviter deux personnes.
Alors, deux personnalités.
Deux personnalités, c'est vrai.
Alors, Bertrand, fidèle à l'UNIS en tant que partenaire depuis l'origine.
Bertrand Perrault, oui.
Oui, Bertrand Perrault, évidemment. Bah, il y en a qu'un sur le plateau, donc en même temps.
C'est vrai.
Mais c'est vraiment très important pour les adhérents de l'UNIS et pour l'UNIS d'une manière générale, Île-de-France, de créer du lien avec nos partenaires les plus fidèles et les entreprises avec qui on travaille tous les jours. Et c'est vrai que Drieux, c'est avant tout une histoire. Et nos clients, ils sont extrêmement attachés. Et c'est aussi, c'est pas pour le flatter parce qu'il est à côté de moi, mais c'est aussi une compétence. Et là-dessus, très clairement, l'UNIS se reconnaît dans Drieux.
Alors, merci, Benjamin.
C'est vrai que vous avez introduit Bertrand, mais pas sa fonction. Donc, président de Drieux Combaluzier.
Alors, c'est très important.
C'est très important.
Alors, il aura été directeur général. Il a été nommé il y a un an et demi président. Parce qu'il le vaut bien et qu'il le mérite.
Tu vas me faire rougir.
C'est un homme qui ment. Et juste une chose, en fait, je crois que il a un vrai mérite, c'est le travail. Et donc, c'est à force de travail qu'il en est arrivé là. Je me trompe.
Merci Benjamin, merci pour ce beau témoignage qui fait chaud au cœur et qui effectivement célèbre et tout le travail fait depuis quelques années pour faire de Drieux Combaluzier ce qu'est Drieux Combaluzier aujourd'hui.
Donc une entreprise familiale, on le rappelle, hein, mais qui a une réputation hors norme sur toute la région parisienne.
Une vraie notoriété.
Exactement.
Et Henri.
Et Henri, que l'on n'a pas présenté, Henri Buzicazo.
Moi, je suis proche de la Fédération des ascenseurs depuis très longtemps. Je travaille avec elle sur un certain nombre de sujets. J'ai participé à des études. Bon. J'étais là pour les 100 ans. Qui avait été différé à cause de la Covid. Je participe à la vie. J'avoue que pour un étage, je prends l'ascenseur. Alors, quand on s'en indigne, voilà.
Henri, non.
Bérénice, quand quelqu'un s'en indigne, c'est fréquent. Un ami, des proches, mes enfants, je dis, écoutez, j'ai fait une promesse, je travaille avec la Fédération des ascenseurs et même pour un étage, je suis obligé de prendre l'ascenseur. Voilà. Bravo. Et ça passe.
Eh oui, bravo.
Je ne connaissais pas cette qualité
très,
d'Henri.
Très belle dynamique.
Prenez l'ascenseur. Une vraie révélation ce soir. Hein.
Même pour un étage,
Pour un demi-étage,
Henri, bravo.
Alors justement, on va parler de cette utilisation de l'ascenseur hein, qui peut être différente selon un immeuble, selon une copropriété en fonction du nombre de copropriétaires dans l'immeuble, du nombre d'habitants et puis en fonction du type d'habitant. On va faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, hein, qui sont les JO 2024. C'est vrai qu'on a abordé le sujet de la location saisonnière, parce que beaucoup redoutent cette fameuse location saisonnière qui va exploser pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et justement, alors Bertrand, vous nous expliquez hors antenne que une des conséquences de cette location saisonnière, eh bien, c'est une surutilisation, en tout cas une utilisation plus fréquente de l'ascenseur.
Ce qui est clair, effectivement, c'est que les JO vont forcément avoir une grosse conséquence en matière de trafic, puisque le nombre d'utilisateurs et d'habitants vont être démultipliés pendant toute la période des JO. Et donc, forcément, les ascenseurs, qui sont le premier canal de transport au niveau de la propriété, vont être surutilisés. La conséquence de ça, c'est que ça veut dire que tous les mainteneurs, quels qu'ils soient, vont avoir une obligation, un devoir de maintenance sur intense, entre guillemets, ou avec une grosse intensité sur justement cette augmentation de trafic pour faire en sorte que les ascenseurs ne tombent pas en panne.
Donc ça veut dire que là, sur votre agenda, en 2024, été 2024, vous avez déjà booké, vous savez que vous allez être sursollicité, en tout cas que vous devez envoyer vos hommes.
Effectivement, alors de façon récurrente, on met déjà tous les moyens en œuvre pour assurer la maintenance de tous nos ascenseurs quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le trafic. Mais c'est vrai qu'on a noté dans nos agendas une alerte spécifique par rapport à au surtrafic qu'on va avoir pendant les JO 2024.
D'accord, donc ça c'est quelque chose que vous avez bien en tête.
Oui, exactement.
Benjamin, justement, par rapport à ça, la location saisonnière, plus largement, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé pendant cette table ronde. Quelles sont les difficultés auxquelles vont faire face les administrateurs de biens dont vous faites partie, les syndics, les gestionnaires de copropriété?
Ben en fait, on va avoir une accentuation des dégradations des immeubles.
Ce qui vous fait peur en tant qu'administrateur de biens?
Oui, très clairement. Au-delà du fait des nuisances qui vont être opérées dans les immeubles par effectivement l'engouement de cet événement, les JO, où on va avoir des gens qui vont être sur place en nombre. Je vous donne un exemple. Les balcons parisiens, c'est un danger absolu pour nous.
Alors ça, c'est vrai que c'est un autre sujet, les balcons.
Mais les balcons, c'est un autre sujet, mais ça va être un des sujets.
Ça en fait partie.
Et donc, ça fait partie de l'immeuble.
Bien sûr.
Et donc, c'est aussi, à notre niveau, la sécurité, l'ascenseur. Par exemple, quand trop de personnes rentreront en même temps dans un ascenseur, quand ils seront bloqués
avec
leur valise, pour la sécurité des personnes. Alors, effectivement, on a déjà évoqué le problème de la sécurité, mais nous, aujourd'hui, il y a le vieillissement accentué par le nombre de passages, le nombre de voyages des ascenseurs, c'est une certitude, les dégradations des parties communes et les nuisances sonores pour les copropriétaires. Parce que quand vous vivez que 3 jours dans un immeuble, vous ne faites pas attention. Et vous ne faites pas attention aux autres.
Alors Henri, vous qui avez animé cette table ronde sur le sujet de la location saisonnière, votre avis à ce sujet, mon cher Henri?
Alors je crois qu'il y a je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie ou du réalisme, on va être clair. On sait tous qu'il faut réguler ces locations meublées touristiques de courte durée. Bon, on peut appeler ça Airbnb pour aller plus vite, ce n'est pas la seule marque. Finalement, il y a quelques années, on a vu ça arriver, on a dit tiens, c'est vrai, après tout, mettre à disposition sa résidence principale pendant quelques nuitées, quelques semaines, quelques mois, bon... Une loi dit aller jusqu'à 120 jours. Bon. On a même vu des personnes qui achetaient pour toute l'année un local qui allait multiplier les nuitées. On n'a pas vu venir que le logement stable à titre principal pour des locataires qui, toute l'année, vont travailler dans une ville. Un logement qui va être acheté à des fins de résidence principale. Et bien tout ça, c'est quand même l'essentiel de la vie d'une ville. Il y a un dérèglement aujourd'hui dans les territoires les plus attractifs de notre pays. Paris en fait partie. Hein, 40 000 logements dans Paris sont utilisés
c'est le chiffre qui a été
de cette façon-là. Le Pays Basque, la Bretagne.
Alors, attendez, quand
vous
dites 40 000, c'est-à-dire que c'est des investisseurs qui ne font que ça ou c'est des personnes dont la résidence principale est mise en location saisonnière 120 jours par an?
Alors, aujourd'hui, dans les 40 000, on a les deux.
D'accord.
On a les deux.
Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même... On ne peut pas reprocher à un propriétaire de vouloir, tout à l'heure, on l'a dit, mettre du beurre dans les épinards. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher.
On va y arriver. Quand on dit réguler, ce n'est pas empêcher, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès. Par exemple, on dit aujourd'hui, est-ce que ces 120 jours ne sont pas excessifs? Qui 120 jours, je vous rappelle que ça fait 4 mois, si je compte bien. On est parti là-dessus. Qui quitte sa résidence principale pendant 4 mois? Qui prend 4 mois de vacances par an?
Avec le télétravail, il y en a de plus en plus.
Alors oui, on peut imaginer ça. En tout état de cause, réguler, ça peut être de descendre à 90 jours, à 60 jours. Et puis ça veut dire qu'en tout cas, ceux qui en font une industrie, on voit aujourd'hui à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Lyon, dans toutes ces grandes villes très attractives, Marseille, des acquéreurs d'immeubles entiers qui vont exploiter de cette façon-là seulement et qui vont confisquer 20, 30, 40 logements aux personnes qui y vivent. Bref, il y a des tensions sociales aujourd'hui. Je cite le Pays Basque, je trouve que c'est mon pays, mais c'est le pays qui est à feu à sang. La Bretagne, c'est pas mieux. Il y a beaucoup de régions, au point que des parlementaires ont écrit une proposition de loi, des parlementaires de tous partis, ça c'est rare pour qu'on le signale, des députés, avec d'ailleurs des sénateurs qui se sont joints à eux. Cette proposition de loi, elle propose qu'on régule, c'est-à-dire que, en particulier, on fasse passer la fiscalité de ces locations meublées, qui est très favorable aujourd'hui, je ne vais pas donner de chiffres, à un niveau qui la rapprocherait des logements qu'on loue à l'année, qui, elle, n'est pas favorable. Donc, on a la double peine.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'inverse
Il faut faire les deux.
Améliorer la fiscalité des autres investissements. Parce
il
que...
faut améliorer le logement loué à l'année, vide ou meublé, mais loué de manière stable. Et il faut dégrader ce paradis fiscal de... de loueur en meublé. Bon, donc il y a ça. Deuxièmement, il y a l'idée qu'il faut aussi aller vers plus de qualité de ces logements, parce que certains sont loués et ne présentent absolument pas la qualité nécessaire. Et puis, il faut peut-être effectivement réduire ces 120 jours. En tout cas, c'est un autre sujet, mais c'est lié. En tout état de cause, cette proposition de loi, elle n'a pas été inscrite. Elle a été repoussée par le gouvernement, qui maîtrise le calendrier, jusqu'à la fin de cette année. Alors, on a dit, mais pourquoi on fait ça ? Ben parce qu'effectivement, on n'a pas envie, et la loi, du coup, ne serait applicable qu'en 2024. On veut laisser passer les JO, on a besoin de ce logement interstitiel, on en a besoin. Il va y avoir des excès de niveau de loyer, il va y avoir des troubles dans les immeubles, on le sait, tout ce qui a été décrit à l'instant ne fait aucun doute, mais bien évidemment, on a besoin de ce logement, et donc il faut se préparer à des embarras particuliers, qu'on soit ascensoriste, qu'on soit administrateur de biens, force de l'ordre, on va être confronté à ces problèmes-là. Ils seront là, pour partie liés dans les immeubles aux locations touristiques meublées de courte durée.
Alors c'est sûr qu'il y aura des difficultés, on en a parlé. Benjamin, vous vouliez rebondir sur la location saisonnière, sur le statut ?
Oui, mais le statut, c'est comme le bail mobilité. Alors, le bail mobilité doit respecter l'encadrement des loyers à ce jour. Aujourd'hui, on voit des loyers complètement disproportionnés qui ne respectent rien pour le bail mobilité. C'est aussi des baux courte durée, puisque c'est de 1 à 10 mois. Mmh. Et aujourd'hui, malheureusement, les particuliers en font leur chou gras et louent des appartements qui devraient normalement être loués 1 500 euros jusqu'à 4 000 euros. Et ça,
après,
ce n'est pas normal.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que vous mettez à la place des investisseurs ? Et c'est vrai que les Français sont très attachés à la pierre. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, les autres statuts, vous qui êtes un fervent défenseur du statut du bailleur privé, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a envie d'investir dans l'immobilier, c'est un peu la croix et la bannière.
Il y a deux choses.
C'est tentant de faire de la location saisonnière.
Il y a évidemment la tentation. Il ne faut pas demander à l'investisseur d'être sage. Même sur lui, mais tu sais, tu portes préjudice à la collectivité ou à ton immeuble, eh bien, ça passera après son intérêt personnel. Et il faut donc rééquilibrer les statuts. Si quelqu'un peut louer à l'année, c'est-à-dire en ne cherchant pas en permanence un nouveau locataire, avec quelqu'un qui est fiable, qui paie correctement et qui travaille à côté parce que c'est une infirmière libérale ou un artisan ou un cadre, eh bien, à ce moment-là, on aura tout gagné. C'est-à-dire on a rapproché les deux fiscalités. Quand on a fait cette fiscalité très avantageuse du loueur en meublé de courte durée, c'était il y a des années, c'était pour favoriser l'émergence de cette offre. On en avait besoin à l'époque. La fiscalité, c'est un outil de pilotage. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on en a besoin, c'est qu'on en a trop. Bon, donc, il faut déplacer le curseur. C'est évidemment ce qu'il faut faire. On rééquilibrera les deux parcs, le parc stable, dont toutes les villes ont besoin, qu'on soit à Biarritz, à Paris ou à Vannes. Et puis, ces locations touristiques, dont on a besoin aussi, parce qu'aujourd'hui, vous enlevez cette offre-là, le parc hôtelier est incapable d'accueillir les touristes qui vont arriver chez nous pour les JO. Le parc hôtelier est incapable dans beaucoup de villes touristiques ou thermales.
C'est deux choses différentes aussi, les hôtels et la location saisonnière. Ce n'est pas les mêmes services,
C'est pas le même service, mais en tout état de cause...
Les personnes qui vont...
On trouve un point de convergence.
Après, les personnes, quand on discute avec les utilisateurs, c'est vrai que les personnes qui réservent un bien qui est en location saisonnière n'ont pas les mêmes attentes que ceux qui vont à l'hôtel. C'est pas le même séjour, c'est pas la même...
De plus en plus quand même.
Je crois que ça se rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, les locations saisonnières sont vraiment de grande qualité. Mmh. Alors évidemment, vous n'avez pas le service d'un hôtel. Mais les propriétaires font beaucoup d'efforts pour que l'accueil, il y a des concierges.
Oui, mais après, ça ne fait pas tout. Il n'y a pas un room service, il n'y a pas un spa.
On se rapproche. Je vous invite à regarder. Allez, je vais citer une plateforme. Vous prenez Booking. Moi, il m'arrive de chercher une nuitée d'hôtel parce que c'est le choix que je fais. Et ça se confond complètement. Il faut regarder de près pour se dire non, effectivement, il n'y a pas le même service. On se rapproche.
Je reprenais votre idée des investissements. investisseurs pour maximiser leur rentabilité, ils n'ont pas le choix que de ne pas respecter la loi.
J'ai pas dit qu'ils n'ont pas le choix. J'ai dit ça se comprend, ça peut être tentant.
Mais ça peut être tentant, mais comme...
Attention, j'ai pas dit de ne pas respecter la loi.
On m'a appris que c'est limité à 130, la règle, je la connais. Et aujourd'hui, le problème de notre métier aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucune vérification qui est réalisée, parce que les gens, les investisseurs privés et les particuliers aujourd'hui en font n'importe quoi.
Oui, mais là où est le problème,
personne ne surveille, personne ne vérifie.
Le problème se prend peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire réduire la fiscalité des autres statuts pour justement, c'est ça que je voulais dire.
D'accord. Et
je crois qu'on est d'accord là-dessus.
Je l'avais pas vu sur ce plan-là.
C'est ça en fait, ça peut être tentant parce qu'en effet, quand vous prenez
un dernier exemple, le DPE. Nous, les professionnels sont obligés. Les professionnels sont obligés de faire réaliser des diagnostics obligatoires, les locations de courte durée, rien du tout.
Le ministre a dit en fin d'année dernière que ça devait changer. Bon, on attend.
Oui,
mais...
voilà, l'idée, c'est de rééquilibrer les exigences du parc, on va dire, stable de longue durée et du parc à vocation touristique de courte durée. De les rapprocher, tout simplement, pour plus d'équité. Et dernière chose, et je vais reprendre les mots du maire adjoint chargé du logement à Paris, Yann Brossa, c'est 4 mois qui peut-être demain seront réduits à 3, peu importe. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour des ménages qui peuvent gagner de l'argent avec leur résidence principale lorsqu'ils n'y sont pas et mettre du beurre dans les épinards. C'est l'expression qu'a utilisée l'élu parisien. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'enlever, il faut garder cette souplesse. Mais on parle bel et bien de régulation. On a aujourd'hui des situations dans toutes ces zones à forte attractivité, la ville capitale, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des communes rurales qui en souffrent aujourd'hui dans des belles campagnes.
Vous avez évoqué la Bretagne tout à l'heure.
Voilà, bon, c'est pas tenable. Donc, on a un problème d'excès et les pouvoirs publics vont faire leur travail. Là, ils ont un peu différé pour ne pas bloquer la machine pour les JO, pour être tout à fait honnête. On vous le dit à voix basse dans les couloirs de l'Assemblée ou dans les ministères. C'est la vérité.
Comme le dit Henri, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'alignement. En fait, pour donner de l'homogénéité, de la cohérence à tout cet écosystème.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, et je vous dis à très bientôt sur Radio Immo.
Merci à vous, à très bientôt.
Soirée de l'UNIS et FNAIM du Grand Paris, en partenariat avec TK Elevator et Drio Combaluzier sur Radio Immo.